Bonjour à tous, bienvenue. Il y aura effectivement du grand air, de l'environnement, avec aujourd'hui dans ce haut de mon amour Anne-Charlotte Guilaine et Elisabeth Collet à la technique, et assistée de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza. C'est Xavier Pestudia qui réalise l'émission. Avec pour débuter donc une petite humeur à mi-chemin entre l'été indien chez nous et l'hiver polaire chez les ours blancs dans l'Arctique, une région du globe où jusqu'à présent on n'avait pas trop l'habitude de plaisanter avec les saisons. L'Arctique donc frappé par le péril climatique, pour peu que le réchauffement se poursuive, eh bien on pourra en profiter pour introduire là-haut quelques ours slovènes qui vivront assez heureux loin des tirs de balles. L'Arctique où l'on verra peut-être aussi batifoler les derniers tonidés. Dès que nos armateurs thoniers français sous pavillon libyen, espagnol et autres ont fini de remplir les comptes et de vider la Méditerranée de ses sushis ambulants. Le tout avec la bénédiction des chefs de gouvernement européens, France incluse, qui ont rejeté lundi dernier une proposition de la Commission d'interdire le commerce du thon rouge. Effectivement, pourquoi légiférer inutilement? Quand il n'y aura plus de thon, le commerce s'arrêtera de lui-même. Bon, voyons, voilà, ça c'est du beau et du bon développement durable comme on l'aime. Bonne nouvelle en revanche pour les ours polaires qui envisageaient de se faire pousser des nageoires. Eh bien, rassurez-vous, parce que cet été, la banquise n'a pas totalement disparu. Non, tout juste s'il lui manquait un petit million de kilomètres carrés par rapport aux moyennes des 30 dernières années. Soulagement donc chez nos amis plantigrades qui retrouveront bientôt leur territoire gelé pour pêcher le phoque et faire des provisions de graisse avant l'hiver. Des ours blancs qui avaient cette semaine les yeux rivés sur New York où se jouaient, vous le savez, les matchs de qualification pour la conférence des Nations Unies sur le climat qui va débuter en décembre à Copenhague. Conférence où l'on s'engagera ou non à revoir notre modèle de civilisation un tout petit peu dingue, un tout petit peu énergivore et vous le savez, basé sur croissance, consommation, etc. L'objectif étant, rappelons-le, de préserver non seulement l'avenir de la banquise, des ours blancs, mais aussi celui des habitants du Sahel, du Bangladesh, des archipels du Pacifique et j'en passe. Rencontre au sommet donc cette semaine à l'Assemblée générale de l'ONU. Avec mention peut mieux faire peut-être pour Barack Obama, champion d'une nation de 300 millions d'habitants qui consomme à elle seule une majeure partie des ressources de la planète. Une population qui n'a peut-être pas encore complètement compris, remarquez-nous, on n'est pas forcément mieux, que non seulement son niveau de vie était tout à fait négociable, mais qu'elle ne sortirait pas forcément malheureuse des négociations. Mardi donc à l'ONU, quand le président du Rwanda, Paul Kagame, a déclaré « Le but du jeu n'est pas de trouver des coupables, il s'agit de la survie de la planète », eh bien devinez quoi, là-haut, en Arctique, au pays des ours blancs, on a tous applaudi. Alors à ce sujet, je tiens aussi à vous renvoyer sur un excellent numéro hors série de Politis qui s'appelle donc le chaos climatique, avec aussi donc des solutions qui ne sont pas radicales, mais je veux dire qu'obligatoirement, quel changement de société, de civilisation il y a derrière. Vous avez beaucoup d'indications donc dans ce numéro hors série de Politis. Dans les nouvelles, nous avons donc un petit frelon asiatique qui se porte très bien, mais oui, ça y est, il vient visiter la région parisienne, il est arrivé. Et puis dans d'autres nouvelles, eh bien, nous avons Walter Bouvet qui est donc... Le dirigeant de Terra Eco, donc ce mensuel. Bonjour Walter Bouvet.
Bonjour Denis.
Voilà, vous êtes à Nantes, hein, vous êtes bien chez vous, c'est ça?
Exactement.
Voilà, non, mais il faut le savoir, on n'a pas besoin de venir, de se déplacer avec des taux de carbone. Alors, de quoi va-t-on parler? On va essayer de picorer dans votre actualité. De quoi allons-nous parler, Walter?
Alors, on verra comment un certain Gunther Paoli imite les recettes de la nature et l'applique aux entreprises. On découvrira aussi incroyable le 4x4 qui dégage les bronches.
Chouette.
Et puis enfin, on osera poser la question qui tue: pour sauver la planète, faut-il faire moins d'enfants?
Merci à vous, Walter Bouvet. Et puis, notre balade, ce sera donc Catherine Richard. On va partir dans la haute Maurienne, très très haute. Là, ce sera notre grand air, donc avec cette femme, vous verrez. Donc, on va prendre de l'air. Et sans plus tarder, Jean-Marie Pelt avec aussi une actualité. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Vous allez enfourcher un cheval de bataille que vous connaissez bien depuis de nombreuses années. Les organismes génétiquement modifiés. On connaît quand même votre position donc, par rapport à ces fameux OGM. Faisons un petit point, qu'est-ce que l'on peut dire?
Corinne Lepage a saisi le Conseil d'État qui a en fait retoqué le fait que le gouvernement ait pris un décret et non pas une loi pour transcrire dans le droit français la directive européenne sur les OGM. Alors, donc, Corinne Lepage a obtenu satisfaction et il faudra une loi. Alors, donc, concrètement, ça veut dire que l'affaire des OGM va revenir pour la énième fois sur le tapis. au niveau du Parlement.
Le gouvernement pensait s'en être débarrassé.
Oui, c'est à Bruno. Alors, entre-temps, l'Allemagne, comme la France il y a maintenant un an et demi, a interdit la culture du Monsanto 810, qui est un maïs OGM, avec des arguments environnementaux et sanitaires qui recoupent d'ailleurs ceux que la France a fait valoir à Bruxelles pour obtenir ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'il n'y a pas de problème, on a le droit de dire on n'en veut pas chez nous. Alors, ce qui me frappe beaucoup dans ce dossier, c'est qu'un clivage de plus en plus net se dessine entre, d'une part, les opinions publiques qui, finalement, entraînent dans leur camp les gouvernements et les États, parce que si les gouvernements et les États sont de moins en moins chauds pour les OGM en Europe, c'est parce que les opinions publiques sont très froides.
Oui, c'est pas par conviction personnelle.
Non, mais les représentants doivent représenter l'opinion. Voilà. Donc ce n'est pas déshonorant. Bon, mais l'Union européenne, et en particulier la Commission de Bruxelles, est restée très pro-OGM. Oui. Et elle est très pro-OGM parce qu'elle suit presque aveuglément les positions de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui s'appelle l'EFSA, et qui, elle, est, je dirais, parce que je vois ces positions les unes après les autres, furieusement pro-OGM. Oui. Mais tellement pro-OGM que cet organisme est maintenant très critiqué. Il est très critiqué précisément par les gouvernements qui critiquent sa composition. Nous avons créé une autorité en ce qui concerne les OGM en France. Elle regroupe des gens de disciplines très largement différentes. Elle regroupe aussi des représentants de la société civile. Donc les problèmes éthiques sont pris en considération, aussi bien que les problèmes scientifiques. Mais ce n'est pas du tout le cas de l'EFSA. Donc il y a une forte pression des gouvernements pour qu'on change cette fameuse commission, comme on a supprimé en France la commission du génie biomoléculaire, et qu'on l'a remplacé par cette autorité, qui est d'ailleurs placée sous la présidence de la patronne du CNRS, Mme Bréchignac, qui n'aura pas un rôle facile, parce que c'est difficile de se positionner dans ces débats qui sont complexes.
La partie de bras de fer quand même continue, genre entre les grandes multinationales productrices OGM et puis les opinions publiques.
Oui, c'est une partie de bras de fer qui dure depuis 15 ans. Bon, alors vous avez d'un côté, les opinions publiques, en effet, qui en Europe sont très hostiles, majoritairement, à raison de 70%, 75% selon tous les sondages qui sont convergents. Et puis, vous avez en face les multinationales. Alors, il y en a quelques-unes. Les quatre grandes, c'est Monsanto, c'est Bayer, c'est Pionnière et c'est Syngenta.
L'argument est toujours le même, c'est-à-dire on va prendre du retard par rapport, on va dire, aux Américains, qui commencent à lever le pied d'ailleurs aussi sur le sujet. On va vous dire comment on va faire pour nourrir le monde, c'est toujours effectivement les arguments.
Oui.
Aujourd'hui, Jean-Marie, on sent bien que les gens n'ont pas envie de bouffer les OGM.
Alors, ce qui m'avait frappé, c'est que j'ai vu donc un sondage dont j'ai parlé récemment, où on a demandé aux gens de classer 100 mots ayant trait au développement durable. Et les OGM sont arrivés en 90e position, donc c'est très mal aimé.
Oui.
Et ils sont un petit peu aussi peut-être les boucs émissaires de la crise, puisqu'on veut aller vers des aliments plus proches de la nature, plus sûrs aussi. Et les OGM ne sont ni l'un ni l'autre.
Ils se disséminent, on le sait.
Ils se disséminent, bien sûr qu'on le sait. Et puis alors, il y a effectivement maintenant beaucoup d'informations qui nous viennent des États-Unis, où on commence à dire qu'ils n'ont pas augmenté les rendements. Il y a une étude toute récente qui insiste sur ce fait, où on dit que les pyrales, qui sont les parasites du maïs, commencent à devenir résistantes aux OGM qui sont destinés à les détruire. Ce n'est pas surprenant du tout, c'est tout à fait normal, c'est les lois de la vie. Les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques et de la même manière, évidemment, les plantes deviennent résistantes aussi aux toxiques qui sont contenus dans les OGM.
Et puis on peut se nourrir aussi sans forcément passer par les OGM.
Oui, alors ici, il y a une étude tout à fait intéressante qui vient de l'ONU, qui date de mai 2007, qui n'a pas été du tout relayé en France, qui a été très relayé en Allemagne, et qui dit cette chose stupéfiante: pour nourrir les 9 milliards d'habitants qu'on attend en 2050, un, on n'a pas besoin d'OGM, deux, on peut les nourrir par l'agriculture biologique, ce qui paraît tout à fait surprenant, avec ce petit codicille, la condition d'utiliser de bonnes pratiques. Et je pense que dans le domaine de l'agriculture, il va y avoir, il commence à y avoir, des réflexions sur les pratiques de l'agriculture conventionnelle actuelle pour aller vers une agriculture différente où, par exemple, on pratiquera le semi-direct. Le semi-direct, c'était le nom des trains autrefois, qui était ni omnibus, ni express.
Oui, d'accord.
Vous vous rappelez, les semi-directs. Alors là, c'est plutôt les semis avec un S, direct sans labourer, mais en grattant juste le sol. Bon, ça, c'est une pratique nouvelle. Il y a des quantités d'avancées dans le domaine
des pratiques agronomiques.
C'est qu'on
va refaire de l'agronomie. Bah, voilà.
On va sortir d'une agronomie qui est complètement
inféodée
à la chimie pour faire une autre agronomie. C'est le mouvement qui se dessine maintenant. C'est un mouvement qui se dessine aussi à l'INRA.
Oui.
Bon, je pense donc que les OGM, en Europe en tout cas, ont vraiment du plomb dans l'aile et je m'en réjouis.
On a quand même eu l'Académie des sciences qui est assez...
Elle est pour.
Elle est pour, hein,
c'est
oui, ça.
Elle est pour. Oui, elle est très très, très pour.
Oui. Merci Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Oui. Au revoir Denis, au revoir à tous.
Souviens-toi de moi, mon père, les sentiers, les bois, le ciel embrumé de sa we'll be right back.
choisi par notre programmatrice Muriel Pérez. C'était donc Sammy Descoter qui interprétait Savannah Bay. On va changer de registre, on va aller assez haut, on va aller dans la très très haute Maurienne, dans le département de la Savoie, à 20 km de Termignon, d'ailleurs une commune qui a cédé une grande partie de ses hectares dans le parc national de la Vanoise, et nous nous y rendons. Alors Yves Bernerand, là nous sommes à 2000, à peu près 300 mètres d'altitude. Nous sommes déjà dans le parc de la Vanoise, parking de Bellecombe. Et là, les voitures ne peuvent pas aller plus loin parce qu'elles sont interdites, sauf saison d'autorisation. Puis moi, j'ai continué mon petit voyage à pied. Là, j'en ai pour une heure et quart à peu près pour arriver à Entre-deux-Eaux. Entre-deux-Eaux, donc c'est le lieu où se trouve Catherine Richard. Il faut être bien accroché hein, ici pour vivre. Hein.
Exactement, c'est vrai qu'il y a ces massifs impressionnants de la Grande Motte, de la Grande Casse, et tous ces glaciers de la Vanoise qui semblent chuter dans un ravin profond au fond duquel est l'alpage d'Entre-deux-Eaux, parce qu'il y a deux petites vallées largement creusées dans la montagne qui se rejoignent à cet endroit-là, donc entre deux torrents, entre deux eaux. Ici. Mais c'est vrai que la montagne est profondément creusée et il faut lever la tête très haut pour voir le ciel. Ça aussi, c'est une caractéristique des montagnards.
Ouais.
C'est fabuleux d'être obligé de lever la tête pour voir le ciel.
Ben c'est pour ça que vous
ça demande un effort, ça demande à vouloir regarder son ciel. C'est pour ça qu'il est si bleu et qu'il nous donne tant de bonheur.
Yves Bernerand, vous le connaissez, il intervient assez régulièrement dans cette émission, on le retrouvera un peu plus tard, donc ce raconteur de la montagne, ce naturaliste. Et là on va essayer de retrouver donc Catherine Richard en rentrant dans ce parc national de la Vanoise, créé en 63. Donc c'est l'aîné de nos parcs nationaux. Et on va rencontrer une jeune femme qui a la chance d'échapper à la crise laitière, chance parce qu'elle valorise, elle, sa production, elle ne dépend pas des grands groupes alimentaires, même si elle est solidaire évidemment de ses petits camarades. Et elle fait donc du bleu de Termignon, qui est donc un fromage assez rare. Il n'y a que 6 producteurs, donc on va dire dans le monde, en tout cas dans cette vallée, mais bien sûr dans le monde qu'ils produisent. Et Catherine Richard a posé, je dirais, sa liberté. Elle avait 6 mois. Et là, on est dans ces alpages, je vais dire, générationnels, que l'on s'est transmis de génération en génération. On est dans une propriété, hein, en plein cœur de ce parc de la Vanoise. Donc on l'a compris, entre deux eaux, c'est un joli mot. C'est la réunion donc de deux torrents. Les glaciers au-dessus de nous, bah, évidemment, ils fondent un peu comme partout. Elle a son bois sur le côté parce que le bois, il faut le monter. Un groupe électrogène pour la laiterie et aussi des panneaux solaires. Et puis donc, vous avez ces vaches. Alors, ces vaches qui ne sont pas verbalisées parce qu'elles peuvent cueillir et manger toutes les fleurs qu'elles veulent. Tandis que bah, vous, si vous le faites, bah, non, il y a des règles. On est dans un parc national. Donc, portrait de cette femme qui respire la montagne 4 mois par an, qui dialogue avec les marmots. Arrivée chez elle, ça s'est passé comme ça, il y a une semaine et demie, micro ouvert. Bon, bah Catherine Richard, là j'arrive au bon moment, j'arrive au moment de la traite. Hein. Alors vous avez toujours deux sortes de vaches, donc ce sont les abondances d'un côté et les tarines de l'autre, c'est ça?
Tout à fait.
Ah bah voilà, vous voyez, j'ai bien appris ma leçon, c'est formidable. Hop, on passe à une autre vache. J'allais dire du lait bien fleuri, c'est vrai qu'il l'a été sûrement pendant tout l'été.
Il a
un peu moins. Catherine, là, le lait que vous récupérez, qu'est-ce que vous en faites, vous, après? Parce que vous avez quand même une sacrée spécialité, ici.
Et je le transforme, alors, le printemps en tome, pendant 15 jours, ensuite en bleu de Termignon, et puis ensuite en tome à la fin de l'été.
Allez, candidate suivante. Bon, alors, nettoyage des billes, d'abord, toujours.
Après, tu traites les premiers jets. Il y a toutes les toxines qui peuvent rester comme ça dans le premier lait.
Ouais.
Et après, on branche la machine.
Voilà. Alors, il y a la traite du soir, c'est celle du matin, j'imagine?
Ouais.
Ah oui, ça.
Le matin, 4h30,
4h50. Alors là, on est dans une autre partie de votre laboratoire, Catherine, et vous êtes en train de retourner donc vos meules de bleu de Termignon. On est à quelle période? C'est-à-dire que
c'est un fromage qui a 6 jours, qui est suffisamment sec pour être mis au sel.
Et ensuite, l'affinage, il va durer combien de temps?
Entre 3 et 6 mois.
Quelle est en fait l'originalité du bleu de Termignon? Pourquoi effectivement ça doit fonctionner ici, dans ce terroir?
C'est un fromage qui s'est toujours fait ici.
Ouais.
Et en fait, c'est le seul bleu actuellement qui n'est pas ensemencé, c'est de par sa fabrication qui va bleuir. On peut pas, il n'y a aucun additif pour qu'il bleuisse.
Alors qu'est-ce que c'est justement? C'est ici que ça se passe?
C'est parce que ça s'est fait de manière ancestrale et qu'on continue à le faire. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un fromage qui n'est pas protégé,
oui,
juridiquement pas protégé, et qu'il se pourrait bien qu'un jour, quelqu'un ailleurs décide d'en faire et on n'aura aucune protection juridique pour se dire tiens, on ne veut pas qu'il copie notre fromage.
Bon, et l'Europe, là, vous embête pas?
L'Europe, tiens, quelle bonne question. On est bloqué un petit peu par les quotas. Une année, on produit pas assez, une année, on produit trop. Et cette année, je pense qu'avec les quotas, il y aura encore des surproductions qui vont faire qu'il va falloir diminuer la quantité de lait. Mais l'Europe, ils sont bien gentils, quoi.
Catherine, c'est le moment assez calme parce qu'évidemment le soir est en train de tomber. Les vaches, c'est-à-dire, sont rentrées chez elles, c'est-à-dire qu'elles sont déjà dans les prés.
Oui.
Vous leur avez mis de la musique, hein, ça c'est drôlement bien.
Sympa.
Ah, c'est bien.
Franchement, c'est une musique qui est belle, constante,
ouais,
reposante.
Alors, ce qu'il faut bien évidemment, c'est prendre soin au départ de l'herbe. Et ça, racontez-nous, parce qu'on le retrouve dans le goût du fromage. De l'herbe au fromage, comment ça se passe?
De l'herbe au fromage. Nous, essentiellement, les vaches sont nourries qu'à base d'herbe. Elles ont un petit peu de compléments céréales au début du mois de juin. Ensuite, plus rien jusque maintenant, où on vient de rattaquer un petit peu de céréales. Donc, moi, je suis un peu dans le... Je ne parlerai pas de bio, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de faire du fromage à base de farine.
Oui.
Donc, je donne... Elles n'ont que de l'herbe. Elles en ont à volonté, par contre.
Il y a des gens avec qui vous n'êtes pas du tout copains. Je ne savais pas qu'il y en avait, moi, ici, c'est les sangliers.
En fait, oui, non, on n'est pas copains avec les sangliers, parce que nous, on s'évertue à avoir des prairies en bon état. Et on ne met pas d'engrais chimiques, on met du fumier, on essaye de faire ça comme il faut.
Mm-hmm.
Et en fait, les sangliers, la nuit, s'occupent de tout labourer. Ils n'ont pas de prédateurs, les sangliers, hormis le loup, mais ça m'étonnerait fort que le loup mange le sanglier, ça, je n'y crois pas du tout. Et c'est vrai que c'est un sacré ravage, quoi. D'autant plus qu'au centre du parc... Il n'y a pas moyen de tuer les sangliers ni quoi que ce soit. Et on est vraiment les victimes d'une situation qui est difficile à gérer. Les terrains sont abîmés de tous les côtés, quoi. Alors, pour nous qui faisons du foin, c'est vraiment embêtant parce que, en fait, on fait tout le foin à la main pour éviter d'avoir trop de poussière due aux sangliers dans le foin.
Oui. Oui, parce qu'elle a aussi une répercussion.
C'est-à-dire un foin poussiéreux, c'est un foin que les vaches vont manger.
Oui.
Et la poussière va se répercuter sur le lait. Et donc du butyrique sur les fromages, c'est-à-dire des fromages qui vont gonfler, qui vont avoir des problèmes de fabrication.
Je tiens à préciser que là, je vous écoute, vous avez votre chat qui vous sert pratiquement de cache-colle. Voilà, sa tête sur votre menton. Non mais génial celle-là. Hein,
donc, elle est géniale, mais elle griffe.
Bah oui.
Hein. Elle s'arrête de griffer.
Et elle ne peut pas chasser le sanglier, elle, non?
Non.
Elle fait quoi, de la souris, ici?
Elle fait les souris, oui.
Elle fait les souris. Là, c'est bien parce qu'on est en train de prendre le soleil sur cet alpage merveilleux d'entre deux eaux. Les fameux bouquetins, parce que c'est l'emblème quand même du parc de la Vanoise, ils sont par là, ils sont ailleurs?
Ils sont juste en face sur les flancs de la Para et sur le col de la Vanoise.
Okay.
On les voit en permanence, là, les visiteurs qui passent peuvent quasiment les toucher.
Le chameau aussi, il est votre voisin ou...
Le chameau aussi, c'est un voisin, mais il est pas... Ni les chamois, ni les bouquetins, ni nous sommes heureux d'avoir du loup. Ça met beaucoup d'émoi parmi les troupeaux, surtout les moutons, et je regrette fermement qu'il y ait autant de gens qui soient obligés d'avoir des patous, d'avoir la contrainte d'avoir des patous, parce qu'il faut lutter contre le loup, d'autant plus que le patou entraîne des conséquences. Les patous sont des chiens qui sont, on dit pas agressifs, je suis désolée, mais il y a des agressions en permanence, et plus ou moins importantes.
Catherine Richard, là en fait, vous succédez à des générations et des générations d'éleveurs?
Oui. Il y a eu mes parents, mes grands-parents, etc. On essaye de reproduire ce qu'ils ont fait, mais je pense pas qu'on sera aussi bon qu'eux, quoi. Parce qu'ils travaillaient plus de manière plus manuelle, c'est plus culturel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup en tracteur, etc. Et que On vit plus de la même manière, on vit plus vite qu'eux, on est moins nombreux sur les alpages.
Ouais.
Donc il faut vivre plus intensément pour arriver jusqu'au bout.
Ouais. La nature, elle est chez elle, c'est pas l'inverse.
Non,
donc,
non, ici, c'est la nature qui domine et nous, on doit vivre à son rythme. C'est pas elle qui vit à notre rythme, c'est nous qui vivons à son rythme. Ouais. Donc par rapport à elle, on doit faire les foins, on doit mettre les vaches à tel endroit pour brouter, on doit faire des tas de choses. On ne doit pas. C'est pas nous qui la commandons, la nature. Et Dieu merci.
En même temps, c'est pas une réserve. Hein. On est bien d'accord.
C'est-à-dire... Non, on n'a pas encore des plumes sur le sommet du crâne et on n'est pas au fin fond de l'Amazonie.
Et puis vous aimez bien effectivement que les gens viennent vous voir aussi.
Hein. Aussi, oui.
Sinon, vous faites double activité. Comment ça se passe?
Eh bien, oui, j'ai deux activités. L'été, je suis marchande de fromage et l'hiver, je suis marchande de virages. Donc, je travaille sur l'école de ski de Termini-en-Valsenis.
Ouais.
Et voilà, quoi, le matin, je m'occupe de mes vaches et la journée, je suis au ski et le soir, je reviens voir mes vaches.
D'accord. Donc, vous passez 120 jours à peu près ici.
Mais 120 jours ici, puis le reste... Ouais. Il se 120 jours au paradis et puis le reste du temps en enfer. Voilà, allez. C'est ce que disait mon papa.
C'est à la fois, Catherine, un chien de garde, c'est un chien de vache.
C'est un chien de vache, oui.
C'est un chien de vache. Donc son boulot, c'est les vaches.
Garder les vaches, ramener les vaches.
Bon, est-ce qu'il veut que je l'interviewe, je lui pose des questions, votre chien, parce que là, il est quand même coincé entre votre cuisse et la mienne, hein, en train de nous regarder.
Écoute-moi, tu dis vache, Poussard, vache, vache, c'est bien.
Ah oui, là, je suis assez impressionné quand même.
Papa, papa. Deux fois, papa. Voilà, papa.
Ah oui. Alors le climat ici. Oh la vache. Il est... Oui, ce qu'elle veut dire.
Poussard, arrête. Pousse.
Bon, alors là, on a une césure un peu climatique, c'est-à-dire qu'on a quand même du ciel bleu, on a des nuages qui peut-être vont débouler de la
vallée, là, par du fond.
De la vallée, ouais. Voilà. Et puis, et donc, c'est en train de recouvrir, de tamiser votre coin. On ne sait pas qui va l'emporter. Voilà.
Non, c'est un peu. Là, on a un petit climat d'Écosse, là, mais je pense que ça va passer rapidement quand même.
Ouais, ouais.
Dans un mois, les marmottes, elles dormiront, et puis. Puis les maisons, elles dormiront aussi parce qu'on sera parti.
Catherine Richard, merci à vous. Puis à très bientôt. Puis moi, je vais reprendre ma petite route à pied. Voilà. Vous m'indiquez le chemin, c'est derrière là.
Voilà, juste en face.
Ah, c'est juste en face. Bon. Donc je remonte un col à 2400 mètres.
Et après, on penche sur le parking de Bellecombe.
Voilà, donc d'ici un petit mois, les marmottes seront rentrées dans leur boîte en carton. On redescendra donc les vaches à pied sur Termignon. Donc ces tarines, il y a les abondances, mais aussi donc les tarines qui sont peut-être plus véloces, plus dynamiques, avec un caractère bien, bien trempé. Et puis, faut tenir hein, là-haut, hein, vous l'avez compris, hein, c'est pas simple. Et puis c'est aussi quelqu'un qui vit, quoi. C'est une femme avec ses vaches, avec ses problèmes au quotidien. Donc l'écologie, oui, d'accord, mais enfin, voilà comment on fait, voilà quel est le quotidien des gens. Merci donc à Catherine Richard. Vous pourrez la retrouver si vous voulez voir sa photo. Elle est sur le site de CO2 Mon Amour. Dans quelques instants, on rejoint Walter Bouvet pour Terra Eco. Et là, musique.
Ça, c'est mon cadeau.
Qu'est-ce que c'est? C'est un chien en photo. Vous m'offrez un chien?
C'est lui, là, sur la photo. Alors, je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bignou. Mais comme il est très jeune, vous pouvez changer de nom si vous voulez. Vous voyez.
Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Pas de CO2, excellent pour la santé, le vélo, c'est très bien. Bah oui, évidemment, pour les courts trajets, c'est parfait. Et bah justement, à Nantes, on va rejoindre Walter Bouvet en remerciant nos petits camarades de France Bleu Loire-Océan qui vous accueillent. Bah, Nantes est plutôt pas mal du côté, effectivement, des transports en commun et du vélo. Le gros débat, c'est évidemment l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où là, on sent bien que ça ne va pas être complètement Grenello-compatible, comme on dit. Et ça, évidemment, vous aborderez sûrement le sujet aussi un jour. Alors, Walter Bouvet, donc, vous êtes le directeur de la rédaction de Terra Eco, donc et on se suit déjà depuis un certain nombre de temps, donc numéro d'octobre qui va sortir.
Absolument.
Voilà, on va dire que c'est vous essayez de rendre d'ouvrir vers un autre monde possible, quoi. Il s'agit pas de faire de la démagogie, etc., mais de montrer qu'il y a des pistes, et puis ça nous interroge aussi quand même sur nos comportements, sur nos achats, sur nos façons d'être.
Exactement. On pense qu'on peut rendre compatible l'humain, l'aspiration au mieux-être, la tolérance, la compréhension du monde, bannir tous les sectarismes et les jugements a priori, oui, en faisant un travail journalistique d'explication, d'enjeux qui sont parfois un peu complexes et souvent très nuancés.
Tout à fait. Exactement. On n'est pas toujours dans du noir et blanc, et puis de fuir quand même cette moralisation qui est assez insupportable.
Ah, surtout pas. Et surtout voilà. Pas de morale.
Alors on va s'intéresser à un homme que moi je ne connaissais pas, qui s'appelle M. Gunther Pauli, qui est belge, donc entrepreneur, et qui a créé donc une ONG, pardon, qui s'appelle Zéro Émission Recherche et Initiative, ZERI. Qu'est-ce qu'ils font dans cette fondation? Pour être précis, c'est une fondation.
C'est une fondation. Alors, on peut dire juste en deux mots que Gunther Pauli, qui a une cinquantaine d'années, ça a été le fondateur d'une boîte de détergents. À la base, c'est pas très glamour, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est Ecovert, on peut peut-être la citer, qu'il a quand même quitté parce qu'il trouvait que même en faisant de l'écologie dans une boîte, c'était jamais assez. Et lui, son gros truc, et celui de la ZERI, donc c'est cette fondation, c'est le biomimétisme.
Ah. Alors, qu'est-ce que c'est?
Étymologiquement, ça veut dire mimer la nature, en gros, enfin mimer les processus biologiques. Et c'est son idée, c'est de copier ce que fait la nature pour essayer de le faire nous-mêmes, en gaspillant donc moins de ressources.
Alors, quelques exemples, s'il vous plaît.
Alors, un exemple, en se basant sur la typologie des termitières, essayer de recréer des climatisations naturelles sans électricité. Voilà. Donc on essaie de regarder comment ça fonctionne, où sont les courants d'air, et on reproduit ça à l'identique, et on essaie donc de créer la climatisation naturelle. On peut aussi faire de l'électricité avec de la soie. C'est ce que cette fondation ZERI essaie de faire dans un immeuble. Ça s'appelle la piézoélectricité.
Mais pas avec du quartz cette fois-ci, qui est une ressource minière, voilà, mais avec de la soie.
Exactement, du quartz, de la soie, enfin des tas de ressources, des tas de minerais ou de ressources naturelles peuvent être utilisées pour les convertir à base de ces ressources, créer de l'électricité. Ce n'est pas vraiment une conversion. Je n'entre pas dans les détails.
Non, bien sûr. Mais
donc, l'idée de Günther Pauli, une autre idée que certains connaissent, c'est le bambou. Comment exploiter les vertus du bambou jusqu'à la racine,
jusqu'au trognon.
À la fois évidemment les pousses de bambou qui peuvent servir à l'alimentation, mais la sève qui peut servir de produit de conservation du bois, les brindilles et les feuilles qui permettent de générer un substrat pour cultiver des champignons riches en protéines, etc., etc. Son idée, c'est de repérer dans le monde entier les meilleures recettes tirées du biomimétisme et d'inciter des entrepreneurs d'une nouvelle génération à faire de vraies ruptures et à proposer des solutions qui consomment peu de ressources.
Et puis Walter Bouvet, dans une séquence que vous avez baptisée « Le marketing expliqué à ma mère », nous connaissions donc le greenwashing, et ça c'est pas fini, mais qu'est-ce que le healthwashing ? Là on va s'intéresser à notre santé. Eh bien nous avons la réponse grâce à Audi, qui donc nous sort un très joli 4x4, parce qu'évidemment ça n'a pas très très bonne presse, on peut pas dire le 4x4, enfin, je parle du 4x4 en ville, hein, pas du 4x4 professionnel, une fois de plus. Et ils se sont dit on va essayer de soulager les consciences, alors c'est formidable, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là ?
Alors c'est exceptionnel, d'abord il y a un aveu d'un des responsables d'Audi qui dit, je le cite parce que je trouve que c'est vraiment un délice, à l'exception du joueur de foot de 18 ans qui vient de toucher son premier gros salaire, plus personne n'ose acheter de 4x4, c'est devenu politiquement incorrect. Donc tout est parti de là, et alors Audi s'est intéressé à un des composants chimiques qui est l'oxyde d'azote, qui est responsable notamment de bronchiolite des enfants dans les villes, enfin en tout cas qui le favorise et qui favoriserait même allergie, asthme, voire décès.
Et donc, dans leur merveilleuse publicité, ils vous disent qu'en gros, ça dégage des bronches, quoi, que ça va être meilleur pour la santé.
En gros, ils disent que le 4x4 est une réponse, et là je cite, aux difficultés respiratoires, à l'hyperactivité des bronches et aux bronchiolites infantiles.
Bien sûr.
Alors, non seulement c'est complètement scandaleux, voire presque amusant, parce qu'à ce niveau, je pense qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais c'est une astuce de publicitaire qui consiste à focaliser sur l'oxyde d'azote, alors que l'enjeu se situe aussi sur le CO2, mon amour, évidemment, sachant que ce 4x4, évidemment, émet pas loin de 230, même un peu plus, grammes de CO2 par kilomètre.
C'est ça.
C'est deux fois plus qu'une voiture normale.
Donc on met en avant, on va dire, la réduction des oxydes d'azote, et puis on soulève le tapis, on met tout le reste dessous. Quoi.
Exactement. Ça. Donc D'accord. ça vaut, de notre expert qui a jugé cette publicité, une note de 0,5 sur 5.
Voilà.
Et encore, je pense que c'est pour le crayon et le papier, comme on dit à l'école.
C'est ça. Et donc, bravo donc, à la nouvelle autorité de régulation professionnelle de la publicité, puisque ce sont des publicitaires entre eux qui sont là pour se réguler. Et là, l'affaire n'est pas toujours très, très simple. Alors, vous avez aussi sorti un dossier sur le merveilleux sujet tabou de la démographie. Faut-il encore faire des enfants ? Et moi, je vous propose, pour lancer un peu ce sujet, d'écouter Pierre Radane, que vous connaissez. Alors, Pierre Radane, qui est expert à la fois en climat, en énergie et aussi président d'une association 4D, et qui nous parle justement de la démographie, sujet qui pourrait prendre 3 heures.
Oh, ça ne date pas d'hier. Rappelez-vous, au début du siècle, on parlait de péril jaune, hein. Il y a bien sûr une angoisse qui est générée par les questions de démographie, parce que c'est vrai que, je dirais, vers le milieu du XXe siècle, il n'y avait encore que 2 milliards d'habitants. Hein. On est aujourd'hui 6,5. Et les statistiques, elles sont assez fiables maintenant en la matière, nous indiquent qu'on va avoir une population humaine qui atteindra 9,5 milliards d'habitants autour de 2050. Le taux de natalité dans le monde est en baisse régulière. La grande majorité des pays européens ont une démographie plutôt négative, c'est-à-dire ne renouvellent pas leur population. La France est plutôt un pays qui fait beaucoup d'enfants. Mais le Portugal, par exemple, qui, quand j'étais gosse, était un pays d'émigration, aujourd'hui, le Portugal ne renouvelle plus que la moitié de sa population. 1,1 enfant par femme, très faible. Bon. Alors, les pays, la grande majorité des pays qui avaient des natalités vives, 5 enfants par femme, aujourd'hui sont redescendus à 2,5-3. C'est le cas, par exemple, des pays du Maghreb. C'est le cas de l'Amérique latine. C'est le cas de l'essentiel des pays du continent asiatique. Bon, la Chine a eu une politique drastique de criminalisation des familles qui avaient plus d'un enfant.
Oui. Hein. Et puis, en plus, il leur manque des filles maintenant.
Voilà. Et il y a deux zones dans le monde qui ont encore une natalité très vive, c'est l'Afrique subsaharienne et l'Inde. Et alors, quel est le processus qui fait que dans un pays, le taux de natalité se calme ? c'est bien sûr l'accès à de meilleures conditions de vie, l'accès à de la protection sociale. Parce que dans des sociétés pauvres, les enfants, c'est la retraite.
Bien sûr.
Et donc, la deuxième raison, c'est l'éducation des filles. Quand vous avez un déséquilibre très fort au niveau de l'alphabétisation des garçons progresse dans tous les pays. Mmh. Mais il y a beaucoup de pays dans lesquels l'alphabétisation des filles est faible. Et donc, à partir de ce moment-là, les filles sont très, très fortement sous la contrainte familiale, sous la contrainte des coutumes locales. Et on a à ce moment-là des taux de natalité qui sont très forts. Et puis, un autre facteur qui joue, c'est l'accès à l'électricité dans les zones rurales.
Alors, ça, oui.
On n'y penserait pas forcément. Imaginez une petite gamine qui est dans sa famille en zone rurale, doit s'occuper des petits frères et des petites sœurs, qui doit s'occuper
des corvées d'eau, de bois, de la volaille.
Les corvées d'eau, des corvées de bois, absolument. Ouais. On est en moyenne dans certains pays d'Afrique maintenant à 20 km pour aller chercher le bois,
ouais.
5 heures. Et vous avez cet enfant, le soir, s'il n'y a pas l'électricité à la maison, il n'y a pas moyen d'ouvrir un livre. Donc elle est prise dans un cercle vicieux qui est une activité domestique, une activité familiale qui la met complètement à l'écart de toute possibilité d'éducation. Et quand vous avez donc alphabétisation des filles et que vous avez accès à l'électricité, vous avez tout de suite les taux de natalité qui diminuent. Et puis alors, ce qui tire aussi... La démographie, c'est aussi l'augmentation de l'espérance de vie.
Oui. Hein,
quand on vit plus longtemps, bien évidemment, ça augmente la population humaine. Alors, regardons ça de façon globale. On était à peu près 900 millions d'habitants en 1800. Mm-hmm. On sera 9,5 milliards en 2050. La population humaine aura été multipliée par 10 entre 1800 et 2050. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer au-delà de 2050, si on va être sur un plateau ou si, au contraire, la population humaine va un petit peu décliner. Elle pourrait décliner, notamment, si les contraintes écologiques et les contraintes de ressources sont trop fortes. Mais il faut aujourd'hui considérer qu'on va avoir, autour de 2050, un moment qui sera un moment important dans l'histoire humaine, la fin de sa croissance démographique. Alors, tout ça va dépendre aussi des politiques de planning familial qui peuvent, je dirais, faciliter ce ralentissement démographique, puisqu'on a encore, même si les choses sont en train de se calmer, on a encore devant nous une augmentation de moitié de la population mondiale. Et cette augmentation de moitié, elle est dans des pays pauvres, et elle est dans les pays pauvres, dans les zones... Les zones rurales, les zones qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, etc. Et notamment quand les démographes aujourd'hui font des calculs, essayent de voir comment vont évoluer, par exemple, les zones les plus pauvres du monde, les bidonvilles, eh bien, on s'aperçoit que le rythme de rechargement des bidonvilles, par exode rural notamment, venant des populations rurales pauvres, eh bien, que ce rechargement est parfois plus rapide que l'intégration des populations dans des conditions décentes de vie. C'est-à-dire qu'on est encore avec une partie pauvre de l'humanité qui, devant nous, n'arrive pas à s'intégrer dans la communauté humaine parce qu'il y a ces phénomènes démographiques derrière. Alors, ça donne, bien sûr, des mouvements migratoires. D'abord de la campagne vers la ville, de la ville vers la capitale, et puis parfois de la capitale vers l'Europe, vers d'autres pays, parce que la misère est infinie.
Alors, on sent quand même parfois le côté des relents qui sont pas très très bons. C'est-à-dire qu'il y a parfois un côté salaud de pauvre qui est derrière. En fait, une des clés de compréhension, c'est aussi nos modes, nous, de consommation et de production, puisque 20% à peu près des habitants de la planète consomment 80% des richesses. Donc ça aussi, ça rentre en compte.
La question la plus importante pour l'humanité n'est pas la question des ressources, n'est pas la question de l'environnement. La question la plus importante pour l'humanité, c'est son rapport à la violence. Avons-nous décidé de vivre ensemble ? C'est la seule question qui compte. Si on répond non à cela, c'est-à-dire que vous avez des pays industrialisés qui ont des modes de vie, qui sont attachés, ils sont agréables, ça se comprend, et puis qui disent, écoutez, pour les autres, on verra plus tard. Vous voyez bien que vous avez un énorme risque de violence. Et ce d'autant plus que ces populations pauvres, auparavant, elles ignoraient quelque part nos modes de vie. Maintenant, elles les voient tous les jours à la télé. Je circule beaucoup dans le monde. La colère est assourdissante. Et là, on est dans un vrai scénario dangereux. Et puis, il y a un deuxième scénario. On va vivre sur cette planète pendant des millénaires. On n'en a pas de réserve. Il faut qu'on épargne les ressources, il faut qu'on épargne l'environnement, il faut qu'on vive en paix ensemble. Et donc, quel est le mode de vie? Quelles sont les techniques? Quels sont les comportements qui vont nous faire vivre ensemble? Alors, bien évidemment, s'il y a un milliard de plus ou de moins, ça joue. Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de prendre la décision de converger dans ce siècle vers des conditions de vie et vers un mode de développement dans lequel l'ensemble de la population trouve son lien. Et de ce point de vue-là, la question du changement climatique joue un rôle considérable. Parce que la question du changement climatique est la première question politique planétaire à solidarité obligatoire. On ne peut pas avoir un climat stabilisé en France si tous les autres pays de la planète n'y contribuent pas. Et donc on est dans une obligation de solidarité, c'est peut-être gênant, c'est peut-être aussi le début de la sagesse. Bon. Et donc aller dans cette direction-là et trouver et aider les pays en développement à avoir des conditions de vie qui soient satisfaisantes pour leur population. Et c'est possible, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a encore au niveau, par exemple, de l'agriculture, on a 80% des agriculteurs, des paysans dans le monde qui n'ont ni tracteur, ni traction animale, qui cultivent à la houe. Bon. Donc, la planète a des ressources, la planète a des capacités, mais il faut qu'on se mette ensemble à essayer de trouver les conditions d'organiser ça. Et ça va être le défi de ce siècle. Le 21e siècle est confronté à des problèmes nouveaux, des problèmes de ressources, des problèmes d'environnement. Mais en plus de ça, il va falloir qu'il finisse proprement le boulot non fait par le 20e siècle, à savoir réduire les inégalités dans le monde.
Voilà, donc réflexion tout à fait solide de cet homme, Pierre Radan, que j'ai rencontré donc hier, avant qu'il ne s'envole pour Bangkok, parce que c'est donc aussi un négociateur dans ces domaines climatiques qu'il connaît bien. Donc on le retrouvera aussi, il nous fera un point sur les gros enjeux de Copenhague. Walter Bouvet, c'est vrai que vous êtes lancé donc dans ce numéro d'octobre de Terra Eco et très intelligemment, avec vraiment différentes couleurs, différentes opinions sur ce dossier qui est toujours extrêmement compliqué, parce qu'il y a la religion, parce qu'il y a les tabous. Vous avez mis face à face Yves Cochet, qui est donc plutôt sur une politique, on va dire, de faisons la grève du troisième enfant, on va dire pour faire simple, et puis donc Henri Léridon qui est démographe. Qu'est-ce qu'il en ressort dans quelques idées comme ça qui peuvent aussi nous éclairer?
Ce qu'il en ressort, c'est que bon, on sait que Yves Cochet tient une thèse qui est assez dure, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il faut arrêter de faire des enfants à tout jamais. On n'est pas dans cet extrême du tout. Il s'agit vraiment de bien mettre un peu de nuance dans les choses. Enfin, il dit quand même que si on regarde le cadre de la France, par exemple, on a une politique d'allocation familiale qui est très, très, très incitative, qui est d'ailleurs l'une des explications, c'est pas la seule, mais l'une des explications du fait qu'en Europe, la France est plutôt un taux de fécondité au-dessus de la moyenne, à 2,1 enfants par femme. Mmh. Et lui demande, et c'est assez nouveau dans le paysage politique, la neutralité des allocations familiales. C'est-à-dire qu'il demande en fait qu'on neutralise cette politique et qu'on arrête de favoriser la naissance au moins du troisième enfant, voire davantage.
Alors, un homme comme Henri Léridon, donc démographe, lui dit on ne peut pas considérer que tout nouveau-né dans un pays riche est seulement un futur pollueur. Avec ce constat-là, les adultes aussi, vous voyez. Donc...
Absolument. Alors, avec une réserve, c'est-à-dire quand on lui demande comment est-ce que sont faites les estimations pour les prochaines années, les prévisions d'évolution de la démographie, parce que pour rebondir ce que dit Pierre Radan, bon, on vise 9,5 milliards d'habitants à l'échelle de la planète en 2050. Cochet lui pose une question, il lui dit, est-ce que vous avez inclus dans vos modèles la baisse tendancielle des ressources naturelles et notamment du pétrole, c'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus rare, ce qui va nous compliquer la vie. Nous compliquer la vie au quotidien, mais aussi pour notre alimentation, puisque notre alimentation, en tout cas dans les pays riches, elle est mécanisée, et dans les pays pauvres, elle l'est très peu, mais la petite goutte de pétrole dans un pays pauvre, elle change la vie. Et donc si cette goutte de pétrole n'est pas là demain, c'est tout finalement la pyramide qui va en souffrir, depuis le cultivateur jusqu'à la personne qu'évoquait Pierre Radan, qui vit en ville ou dans la capitale et qui risque d'être en pénurie alimentaire.
Et d'ailleurs, il rappelle qu'une seule calorie alimentaire dans notre assiette, il faut 13 calories énergétiques en amont, dont 8 de pétrole.
8 de pétrole, donc c'est extrêmement clair. Et donc Cochet dit à Léridon, vous n'avez pas pris dans vos modèles de croissance de la démographie, la mesure des changements sur les ressources et notamment sur le pétrole, 9 milliards d'habitants, on n'y arrivera jamais parce que les ressources dont nous disposerons ne nous permettront pas de nous développer à ce rythme.
Oui, c'est ça.
Donc lui, il est sur une position très noire qui ne rejoint pas tout à fait la position extrême d'un écologiste que je vais citer, qui est James Lovelock, un des papes de l'écologie britannique.
Gaïa.
Voilà, Gaïa. Donc âgé de 90 ans, mais qui pas tout seul, a une équipe autour de lui qui mouline certaines données. Et cette équipe a publié une étude, et cette étude dit, idéalement, si on voulait s'en sortir sur la planète et que chacun puisse accéder à un minimum de ressources, la planète devrait disposer de 3 milliards 600 millions d'habitants. Oui. On est aujourd'hui à 6,5-7. Donc on est évidemment très loin du compte. Aux États-Unis, il faudrait que les États-Unis soient 48 millions d'habitants. Et en France, il faudrait qu'on soit 20 millions d'habitants sur 63 aujourd'hui.
Cool.
Alors évidemment, tout ça est très provocateur. Il ne s'agit pas d'entrer dans une logique d'extermination de la population.
Rassurez-nous.
Mais quand même de rappeler qu'aujourd'hui, l'humanité consomme 125% chaque année des ressources renouvelables de la planète. C'est-à-dire qu'on ne bouffe pas seulement le capital, on bouffe aussi les intérêts et plus.
On
bouffe les intérêts et le capital.
Et le capital. Écoutez, un grand merci à vous, Walter Bouvet. Donc, vous avez bien compris que vous allez avoir beaucoup d'éléments donc, dans ce dossier, vraiment le dossier central de Terra Eco de ce mois d'octobre. Puis on se retrouvera très bientôt. Merci à vous, Walter Bouvet.
Et à bientôt.
Et on va s'offrir, tenez, pour terminer, une petite archive avec le commandant Cousteau. En 1969, radioscopie.
Je suis convaincu que nous ne pouvons pas survivre, nous ne pouvons pas exister. La vie n'est pas possible sur Terre si la mer n'était pas vivante. Si vous voulez, le meilleur service que la mer puisse nous rendre, c'est uniquement en tant que boomerang, c'est nous qui lançons le boomerang, et la mer nous rendra ce qu'on mettra dedans, c'est-à-dire... Si on l'abîme, ça nous abîmera. Si on la soigne et si on la protège, ça nous protégera. La mer est le grand volant qui équilibre les cycles vitaux, qui équilibre les climats, qui équilibre tout le reste. Bon. Modifier la mer d'une façon sensible, soit par une couche de pétrole à la surface, soit par la destruction des récifs de coraux, soit par l'empoisonnement des populations côtières, etc., c'est automatiquement supprimer pour nous de larges pans de vie et de santé. Et la mort de l'océan, c'est-à-dire l'empoisonnement complet de toute forme de vie dans l'océan, se traduirait par une catastrophe dont nous ne réchapperions pas.
Merci à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et la semaine prochaine, eh bien, on retrouvera Jean-Marie Pell pour une petite balade automnale. Et je serai en compagnie aussi de Nicolas Hulot. Vous avez remarqué qu'il y a une certaine actualité cinématographique qui va débouler un petit peu dans tous les médias. Donc Hulot avec nous. Et bien, qu'est-ce que vous dire d'autre ? Si, bien sûr que je vous retrouverai dimanche à 19h55 après les petits bateaux.